Alors je voulais vous commencer en vous faisant écouter le refrain d'une chanson. C'est une chanson d'un rappeur français qui s'appelle Orelsan. Alors je sais que le rap est peut-être pas toujours très apprécié ni très connu, mais néanmoins je vais essayer. Donc le titre de la chanson c'est Si seul. Je ne sais pas si certains jeunes, les jeunes sont plutôt là-bas, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça c'est les paroles et je vous laisse écouter en même temps.
J'attends pas grand-chose de spécial. Les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Des tonnes de personnes défilent sous mes yeux. Pourtant, je me sens si seul.
Voilà, je vous encourage à aller écouter la suite, elle vaut vraiment le détour. Je ne sais pas si c'est une chanson et un interprète que vous connaissiez déjà. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est que Orelsan, il nous parle de la banalité de sa vie. Il nous parle de son mal-être et du fait qu'il se sent seul, tout simplement. Et quoi qu'il fasse, on a l'impression que l'ennui et la solitude finissent toujours par reprendre le dessus. Et ça, je trouvais ça surprenant parce que Orelsan, il a été récompensé aux Victoires de la musique en 2012. Il a eu une vie plutôt passionnante, en fait. Il a reçu donc le prix de l'artiste révélation du public de l'année. Et son album de l'époque a été primé meilleur album rap ou musique urbaine. Et pourtant, ben voilà, voilà ce que nous dit Orelsan sur sa vie. Des tonnes de personnes défilent sous mes yeux. Pourtant, je me sens si seul. Il est en train de nous dire que même les choses les plus excitantes qu'il a pu vivre dans sa vie, eh ben, n'ont pas tenu complètement leurs promesses, en fin de compte. Dans la suite de la chanson, alors je ne vous le fais pas écouter, ça serait trop long, mais c'est aussi très intéressant, il parle de tous les substituts qu'il a essayé pour boucher les vides de sa vie. Il a essayé de remplir le vide de sa vie avec ses potes. Il a essayé de remplir le vide de sa vie avec l'alcool, avec la fête, avec les jeux vidéo, avec l'ordinateur. Mais la conclusion de la chanson, c'est toujours la même. À la fin, je me sens si seul. À la fin du clip, il fait quelque chose d'étonnant, Orelsan. Il monte dans une fusée. Il a mis tout à la construire, cette fusée. Et à la fin, il monte dedans et il fait décoller la fusée comme s'il voulait s'envoler. À la recherche d'un avenir meilleur pour Orelsan. Alors ce que j'aime bien avec Orelsan, moi c'est un peu le cas de tous les rappeurs, c'est qu'il a un franc-parler, quoi. Quand il a un problème, il le dit clairement, il ne porte pas un masque, il ose dire les choses. Et je trouve que là, son diagnostic, il est vraiment pertinent. Écoutez ce qu'il dit là dans cette chanson. Je dors plus la nuit, je dialogue avec une machine. Autre chose encore. Je passe mes nuits à courir après mes rêves. Je passe mes nuits à courir après mes rêves. Et là, je trouvais vraiment que son diagnostic était très bon. Il a compris qu'il courait après du vent, en fait. Dans sa vie. Je passe mes nuits à courir après mes rêves. Et donc, je voulais te demander, avec quoi est-ce que tu remplis ta vie aussi, pour avoir l'impression qu'elle n'est pas vide? Avec quoi est-ce que tu remplis ta vie? Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est que la Bible, elle nous parle justement de cette question du vide de notre existence. Et on va lire un passage qui nous en parle très clairement, c'est l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est l'histoire d'une femme samaritaine, une femme qui essaie de remplir sa vie avec des hommes. Elle est en mal de relation, cette femme, et on va la prendre au cours du récit. Elle a été mariée 5 fois et elle vit avec un 6e homme. Elle est en couple, mais elle n'est toujours pas heureuse. Et elle va rencontrer Jésus et ça va changer sa vie. Allez, on y va. Jésus arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar. Non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel cadeau Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc, ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Jésus a soif, c'est comme ça que ça commence. Ses disciples sont partis à la ville, visiblement, pour chercher de quoi manger. Et il demande donc de l'eau à cette femme samaritaine qui vient au puits. Et on constate que cette demande est un choc, un véritable choc pour elle. Pourquoi est-ce que c'est un choc pour elle ? Jean donne une précision au verset 9, il dit « Les Juifs évitaient tout contact avec les Samaritains. » Alors je vous propose qu'on se plonge rapidement dans l'histoire de ces deux peuples pour comprendre quel est le problème entre les Juifs et les Samaritains. Alors ça commence en 930 avant Jésus-Christ, cette rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Ça commence lorsque le grand roi Salomon meurt. Il y a une espèce de guerre de pouvoir, de guerre politique entre son fils, Roboam, et son serviteur, Jéroboam. Et il se trouve que son fils va prendre contrôle du royaume de Juda au sud, et son serviteur, Jéroboam, va prendre le contrôle du royaume du nord, au nord, qui va s'appeler la Samarie, qui a pour capitale la Samarie. Voilà cette première rivalité politique en 930 entre ceux qui deviendront les Samaritains et les Judéens en bas, Juda. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas qu'une rivalité politique entre les Samaritains et les Juifs, vous allez voir pourquoi. Ça devient aussi une rivalité ethnique 200 ans plus tard. 200 ans plus tard, il y a l'Empire assyrien qui envahit le royaume du Nord et qui déporte une partie du peuple et qui repeuple avec un peuple étranger. Et donc ça devient un mélange, ce peuple qui habite dans le royaume du Nord, un mélange d'anciens Israélites et de peuples qui ont été exilés dans le royaume du Nord. Rivalité politique, rivalité ethnique. Et ce n'est pas encore fini. Vous allez voir, ça continue la rivalité en 400 avant Jésus-Christ, et ça devient une rivalité religieuse pour le coup. Ce qui se passe en 400 avant Jésus-Christ, c'est que les Samaritains construisent un temple. Ils le construisent sur le mont Garizim, qui est à côté de Sichem. Et vous comprenez, pour le coup, avec le temple de Jérusalem, ça pose un peu problème. Rivalité religieuse entre les Samaritains et les Juifs. Voilà comment, au temps de Jésus, on en arrive à deux peuples qui sont très proches, deux peuples qui devraient être frères, mais qui en fait ne se parlent plus et ne se supportent plus. Et donc, la Samaritaine, pour le coup, Elle est surprise quand Jésus, un juif, lui demande à boire de l'eau. Parce qu'il faut bien se mettre dans le contexte, boire de l'eau, ça voulait dire que la Samaritaine allait puiser avec son seau, allait donner son seau à Jésus, et que Jésus allait devoir boire au seau d'une Samaritaine et que ça allait le rendre impur, selon la loi juive. Jésus n'aurait plus pu rendre un culte à Dieu s'il fait ça, normalement. Mais bon, ce que la Samaritaine ne sait pas, c'est que Jésus, c'est Dieu fait homme, et donc il ne peut pas être rendu impur par boire de l'eau avec un seau qui n'est pas pur. Jésus, voici comment il explique la chose à la Samaritaine au verset 10. Si tu me connaissais, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Ici, c'est important ce que Jésus dit parce qu'il diagnostique dans la femme samaritaine une soif. Il est en train de diagnostiquer une soif dans cette femme samaritaine. Alors, vous reconnaîtrez que ce dialogue-là, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Ce dialogue est vraiment bizarre, on dirait presque un sketch, parce que Jésus, il est là, c'est lui qui a soif, il n'a pas de seau et c'est lui qui propose de l'eau. C'est vraiment le monde à l'envers avec Jésus, là. Et Jésus explique, versets 13 et 14, « Celui qui boit de l'eau de ce puits aura de nouveau soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Plus jamais soif. Alors c'est sûr que pour cette pauvre femme samaritaine qui vient puiser de l'eau au puits, pour le coup, ça devient intéressant pour elle. Et là, elle est interpellée. Ah oui, d'accord, j'en veux bien alors de ton eau, Jésus. Si c'est pour plus jamais avoir soif, ok. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est interpellée pour de mauvaises raisons ici, la femme samaritaine. Si elle vient puiser à midi là-bas, c'est en plein cagnard. C'est comme ça qu'on dit à Castres, en plein cagnard, je ne sais pas comment on dit chez vous. Cette pauvre femme samaritaine qui vient puiser à midi, toute seule, c'est pas du tout comme ça qu'on faisait à l'époque, normalement. À l'époque, on venait puiser de l'eau à la fraîche et on venait puiser ensemble avec plusieurs personnes pour pouvoir s'entraider à soulever le puits quand il était plein d'eau et que c'était lourd. Et là, si elle se retrouve seule, c'est qu'il y a un problème. Seule à midi, c'est qu'il y a un problème. Très certainement qu'elle n'a pas envie de croiser les autres de son village qui savent qu'elle en est à son sixième homme. Ça devait jaser dans ce village à l'époque, de cette situation familiale compliquée. Très certainement que plus personne va avoir de contact avec elle. Alors oui, cette eau que lui propose Jésus, elle en a très envie pour plus avoir à venir à ce puits tous les jours et finalement vivre cette honte chaque jour d'être la seule pour puiser à midi. En même temps, ça ressemble à un dialogue de sourds quand même, parce que elle est intéressée que par la soif physique, la soif physiologique, mais Jésus lui propose toute autre chose et elle ne le comprend pas encore, pas totalement encore. Et je me suis demandé si nous aussi, on n'était pas un peu comme Jésus, parfois, si on ne choisissait pas nous aussi Jésus pour de mauvaises raisons. J'ai un copain qui a choisi Jésus parce qu'il croyait que Jésus allait devenir son coach pour que sa vie s'améliore. Et voilà, pour que devenir plus facile pour lui en choisissant Jésus. Est-ce que c'est ça que promet Jésus, là ? Facile, une vie plus prospère, une vie... de réussite. Ça, c'est plutôt même la théologie de la prospérité. Jésus ne s'est pas du tout engagé à cela. Jésus, ce qu'il est venu nous apporter, cette soif qu'il est venu nous combler, c'est cette soif de relation vivante avec Dieu, c'est le pardon de nos fautes qu'il est venu apporter, la paix retrouvée avec Dieu. Il ne s'est jamais engagé à ce que nos vies deviennent comme ça, tout d'un coup, plus faciles. Alors, c'est vrai que cette relation vivante ça, avec Dieu, ça pourrait lui parler à cette femme samaritaine qui est en mal de relation. Mais comme elle ne comprend pas, alors Jésus change de sujet. On lit la suite où on voit Jésus changer de sujet. « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire « je ne suis pas mariée ». En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. » « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. » Voilà. Vous voyez que quand donc cette discussion autour de l'eau, quand ça commence à tourner en rond, quand on voit qu'elle ne comprend pas vraiment ce que Jésus lui propose, Jésus donc change de sujet, mais on voit qu'il ne choisit pas le sujet au hasard. Quel tact, ce Jésus ! Va chercher ton mari ! Va chercher ton mari. Cette eau vive que Jésus veut lui proposer à cette femme, c'est une eau pour son cœur, une eau pour combler cette soif relationnelle qui est en elle. Et jusque-là, elle était fermée, la femme samaritaine. C'est pour ça que Jésus change de conversation. Et on voit qu'en entrant sur le terrain personnel de cette femme, il est en train de dévoiler le péché de cette femme, il est en train de mettre son cœur à vif. C'est douloureux, ça va être douloureux pour elle. On va constater qu'elle va nier cette soif. Comment elle s'y prend pour nier cette soif ? Déjà, elle commence par dire ça. « Je ne suis pas mariée. » Réponse de Jésus. « Tu as raison de dire « je ne suis pas mariée. » En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Je me suis demandé si Jésus était en train de louer sa franchise. « Ouais, t'as raison, t'es pas mariée. » C'est vrai, elle n'est pas mariée. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une façon habile de masquer la vérité ? La vérité, c'est que la vie émotionnelle, la vie intime de cette femme, c'est un champ de ruines. C'est un véritable champ de ruines. Et là, alors que son cœur est à vif, que son péché est dévoilé, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme samaritaine? Elle ferme la porte à Jésus, comme si elle niait sa soif de relation. Et elle change de sujet. « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison, nos ancêtres qui ont adoré sur cette montagne ou vous autres qui affirmez que c'est à Jérusalem ?» Et là, il y a de quoi être triste. Il y a de quoi être triste parce que Jésus, il a ouvert un boulevard à cette femme pour qu'elle dépose ses fardeaux à ses pieds, comme on dit. Et elle ne le fait pas. Elle prend la tangente. « Dis-moi, je vois que tu es un prophète. Est-ce qu'on peut parler maintenant de Jérusalem et de Garizim ?» Vous voyez comment elle évacue le problème. Mais ça m'a interpellé. Je me suis dit, comment on fait, nous? Comment est-ce qu'on fait, nous, quand on est percé à jour? Est-ce qu'on fait comme cette femme samaritaine? Est-ce qu'on prend la tangente quand on est percé à jour? Ou est-ce qu'on ose déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus? Elle, percée à jour, elle change de sujet. Il y a 3 mois, il y a eu Union Jeune, le rassemblement des groupes de jeunes de notre union d'église à la Costette. Et nos 2 orateurs, ils ont justement parlé de cette question du couple. Je me souviens des conclusions. Les conclusions, c'est que les relations humaines, les relations sexuelles, n'étanchent pas notre soif. On peut aller plus loin aussi. Nos possessions non plus. Ce n'est pas parce qu'on aura la plus belle voiture, la plus belle maison ou l'écran plat le plus large qu'on sera heureux. Au contraire, même peut-être qu'on en voudra encore plus. Seul Jésus peut étancher notre soif. Seul Jésus peut remplir ce vide qu'il y a au fond de chacun. Il a donné sa vie pour nous. Il a payé pour nos fautes et il nous offre cette paix avec Dieu. Je me souviens du slogan du premier orateur. Il avait conclu en disant « God first, Dieu d'abord. Dieu est le seul qui peut étancher notre soif. God first, Eve second. Les relations viennent après les relations de couple. » Alors on était 274 participants à Union Jeune. Et il y en a plein qui ont été touchés à ce moment-là. Plein qui ont été touchés. La plupart se sont reconnus dans leur recherche de combler le vide de leur vie avec un copain ou une copine. Certains, dans mon groupe de jeunes, certains ont pleuré en entendant ça. Ils ont été percés à jour, en fait. Ils se sont reconnus dans cette manière de vivre. Et ça fait du bien quand on pleure. Ça fait du bien quand on peut se libérer du poids qui est le nôtre. Ce que j'ai observé dans le ministère pastoral, c'est que souvent, les gens me confessent les péchés, oui, mais ils me confessent les péchés des autres quand ils viennent me voir. Et je vous garantis que ceux qui sont venus dans mon bureau pour confesser les péchés des autres, ils sont repartis de mon bureau tout autant chargés que quand ils étaient arrivés. Mais certains, il y en a certains, qui ont eu le courage de vider leur sac, et eux, ils sont repartis déchargés d'un poids ce jour-là. Non pas parce que je leur pardonne rien du tout, moi, parce que Dieu leur a pardonné. Et j'ai, moi, personnellement, expérimenté cette libération en confessant mes péchés. J'étais à Vaux-sur-Seine à l'époque, je me souviens, c'était un grand moment. J'étais suivi par la psychologue de la fac de théologie de Vaux-sur-Seine pendant 2 ans. Et ça a été un grand moment de libération que de pouvoir tout lui dire, tout lui livrer, tout lui balancer. Et elle m'a juste écouté. Et c'était juste super de pouvoir ressentir le pardon de Dieu et cette libération qu'il nous promet, qu'il nous donne. Dieu pardonne tous nos péchés. Il nous libère de la culpabilité. Alors je vous encourage à confesser vos péchés les uns aux autres. Alors pas, ne me comprenez pas mal, ne confessez pas vos péchés à n'importe qui. Mais bon, vous avez peut-être un proche, il y a des anciens dans cette église, vous avez un pasteur, il y a des anciens, vous avez des proches qui prieront avec vous et qui garderont le silence. On va revenir maintenant au dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Donc quand elle est percée à jour, au lieu de l'avoir vidé son sac, elle change donc de sujet pour donner le change et elle bifurque sur la question du lieu où adorer Dieu. On va continuer maintenant la lecture. On va se rendre compte aussi là du tact de Jésus. Vous allez voir comment il s'y prend avec ce changement de sujet. Il est très très doué. Bon, c'est Jésus en même temps, mais il est doué. « Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout ça. » Nous expliquera tout, pardon. « Je suis le Messie, moi qui te parle, » lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi pars-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Comment il s'y prend, Jésus ? Eh bien, il ne force pas les choses. Cette femme lui propose un nouvel axe. Elle refuse finalement de répondre aux questions embarrassantes de Jésus. Elle noie le poisson. Elle ne veut pas parler de sa vie affective. Eh bien, Jésus, il n'en parle pas. Il n'en parle plus. Il n'est pas venu pour l'accabler. Il est venu pour la relever. Alors, il accepte ce nouvel axe. Où est le vrai lieu pour adorer Dieu ? En gros, qui a raison ? Est-ce que ce sont les Samaritains qui ont raison en adorant sur le mont Garizim ou est-ce que ce sont les Juifs qui pensent que c'est à Jérusalem ? Et dans sa réponse, il montre que ce n'est pas une question de lieu. Il montre que c'est une question de relation. Encore les relations, toujours omniprésentes, les relations, pour parler à cette femme en mal de relation. Jésus lui répond non pas où adorer, mais il lui répond comment adorer ? Comment adorer le Père ? Il remet la question des relations avec adorer le Père, qui dit Père, dit fils et fille avec lequel on est en relation. Elle qui a des galères relationnelles. Jésus lui propose de vivre une relation avec le Père. Il la laisse vraiment pas tranquille, la pauvre. Revient toujours sur son problème, sur ses manques affectifs, ses manques inconscients. Mais bon, ça marche. Finit par comprendre, elle a la puce à l'oreille, là. Et quand elle revient dans son village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» C'est fort parce que elle qui a honte de sa vie au point qu'elle va puiser à midi, seule, elle a honte de sa vie vraiment, pour éviter ses voisins, et bien là justement, elle va vers ses voisins. Elle va vers ses voisins et elle leur parle de Jésus. Il y a vraiment, c'est radical comme changement en elle. Elle a compris le cadeau que Jésus vient de lui faire. Sa soif est étanchée. Christ lui a accordé son esprit. Sa vie est changée. Elle n'a plus besoin de chercher dans les hommes un sens à sa vie, plus besoin d'aller nulle part pour adorer Dieu. Elle peut le faire dans son esprit, connectée avec l'esprit de Dieu. Comment est-ce possible ? Eh bien, là aussi, c'est dit dans le texte, Jésus est le Christ, le Messie, le roi promis par Dieu, le sauveur du monde. En mourant à notre place sur la croix, eh bien, il nous a reconnectés avec Dieu et il nous a donné un sens à notre vie. Alors, je voudrais revenir sur une phrase. Les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Pourquoi revenir là-dessus ? Je voudrais le faire parce que les implications pour nous, elles sont grandes. En fait, on ne peut pas adorer, si on suit ce que dit Jésus ici, on ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas reçu l'Esprit. Et on ne peut pas adorer Dieu non plus sans la vérité, qui est Jésus dans l'évangile de Jean. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de faux cultes, beaucoup de faux adorateurs à travers le monde. Il faut respecter les autres religions, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas se tromper, les autres religions n'adorent pas le vrai Dieu, n'adorent pas Dieu. Pour honorer Dieu, il n'y a qu'une seule solution. Christ. Placer notre confiance en Christ. Reconnaître qu'on a besoin de lui pour être sauvé. On a besoin de son sacrifice sur la croix pour être sauvé. Et à ce moment-là, ben oui, à ce moment-là, uniquement, on devient des vrais adorateurs par l'esprit et en vérité. Les Juifs, par exemple, les Juifs ne sont pas des vrais adorateurs, vu qu'ils ne reconnaissent pas en Jésus la vérité qui les sauve. Les musulmans non plus ne reconnaissent pas en Jésus la vérité qui les sauve. Ce ne sont pas des vrais adorateurs. Et ça marche avec toutes les autres religions. Alors c'est vrai que c'est un peu dur à entendre, mais n'est-ce pas Jésus qui le dit lui-même ? Celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Si on rejette Jésus, on rejette le Père. Si on rejette Dieu le Fils, on rejette Dieu le Père. Jésus est l'unique voie de salut. Et donc, ben, c'est toujours aussi important qu'il y a 2000 ans, pour nous, d'annoncer Christ partout autour de nous. C'est toujours aussi important. Christ est crucial pour nos contemporains. Et il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver le salut. Adorer par l'esprit, en vérité. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas nous donner l'esprit. Ça ne nous est pas accessible. C'est Dieu qui accorde son esprit. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est présenter Jésus. Ça, c'est accessible pour nous. Présenter la vérité. Ça, on peut le faire. On peut présenter Jésus, la vérité, à nos contemporains, à nos amis, à nos collègues de boulot, à nos familles. On peut prier pour que l'esprit leur soit accordé. On ne peut pas le leur accorder, mais on peut prier pour qu'il leur soit accordé. Et on peut les accueillir aussi. Ça, c'est l'autre chose qui est accessible pour nous. On peut les accueillir. Et regardez un peu comment les apôtres, comment les amis de Jésus, les disciples ont accueilli cette femme dans ce passage. Regardez l'importance du comportement des disciples. Verset 27. Les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Cette femme, elle a été touchée par les paroles de Jésus, elle a été touchée par sa connaissance surnaturelle de sa situation personnelle, mais elle a aussi été touchée par l'accueil des disciples, par l'accueil des amis de Jésus. Aucun d'eux n'est intervenu dans le dialogue entre Jésus et elle. Aucun d'eux ne lui a posé des questions cassantes. Imaginons une personne infréquentable aujourd'hui. Est-ce qu'on irait vers elle pour discuter ? Est-ce qu'on irait vers elle pour lui présenter Jésus ? Ben, normalement oui. La grâce de Dieu est pour tous. Il a payé pour tout le monde. Il accorde son esprit en cadeau immérité, comme il l'entend. Cette femme samaritaine, il y a 2000 ans, elle était jugée infréquentable à l'époque. Mariée à 5 hommes, puis en couple, en concubinage avec un 6e. Elle était infréquentable, mais Jésus est allé vers elle. Et nous, est-ce qu'on irait vers les infréquentables d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on saurait les accueillir aussi dans nos communautés ? Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus ? Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quelques mots de conclusion. Il y a 2000 ans, c'est sans doute pas un hasard si Jésus s'est arrêté au bord de ce puits. Il savait qu'il allait rencontrer cette femme, il connaissait son histoire, il voulait lui parler. Il voulait lui parler de ses attentes émotionnelles, ses attentes relationnelles non comblées. Et on l'a vu ensemble, elle a commencé par nier. Mais ensuite, elle a compris. Christ l'a fait entrer dans une relation éternelle avec Dieu. Ce jour-là, le besoin éternel de cette femme a été comblé. Alors je me disais peut-être que ce n'est pas un hasard si on est ici ce matin. J'espère que ce n'est pas pour moi que vous êtes venu, mais que c'est pour Dieu que vous êtes venu. Parce que moi, je ne changerai pas de votre vie, mais lui, il a le pouvoir de le faire. À travers ce récit, on vient de rencontrer, nous aussi, Jésus, et on a été confrontés à nos désirs aussi, à nos rêves. Vous vous souvenez d'Orelsan qui disait « Des tonnes de personnes défilent sous mes yeux, pourtant, je me sens si seul. » On est tous comme Orelsan, on est tous un peu comme cette femme samaritaine à essayer de combler le vide de nos existences avec du vent, avec du vide. Mais Jésus, il veut nous faire entrer dans la paix. Il veut nous donner la paix par rapport à tout ça. La paix d'une relation éternelle avec Dieu, notre Père. La seule relation qui puisse combler toutes nos attentes. En mourant à notre place sur la croix, Jésus a payé le prix de nos fautes. Il nous a reconnectés avec Dieu. Et pour être reconnecté avec Dieu, c'est ultra simple. C'est reconnaître qu'on essaye bien de combler notre vie avec du vide et que la seule chose qui puisse combler notre vide, c'est Christ, mort à notre place sur la croix. Et alors, à ce moment-là, on ne sera plus comme Orelsan, on ne sera plus si seul. Jésus vient combler ce vide. Alors, comment il s'y prend exactement, Jésus, pour combler ce vide ? Il nous a promis qu'il nous accompagnerait chaque jour, et c'est du concret, c'est du solide. Il nous accompagne réellement chaque jour. Il nous a laissé dans la Bible tout ce dont on a besoin pour avancer dans la vie. Quelle que soit la question qu'on se pose sur la vie, il y a une réponse ou un indice dans la Bible. Si on se pose des questions sur l'argent, les impôts, la fraude fiscale, tout ça, Jésus, il a eu des paroles fortes sur ça. Il nous aide. Si vous posez des questions sur le célibat, le mariage, la sexualité, l'homosexualité, le transgenre. Moi, j'ai une copine qui a changé de sexe, ça m'a fait un froid. Jésus a une réponse sur ces questions. Si on se pose des questions sur le sens de la vie, Jésus, il a des réponses. Pour la souffrance aussi, pour le mal qu'il y a sur terre, le mal qu'il y a au fond de notre cœur, Jésus, là aussi, il a des réponses. Alors quand Jésus dit qu'il est avec nous, c'est sûr, c'est du solide, c'est du concret. Mais bon, encore faut-il accepter son diagnostic pour notre vie ? Parce que, il y en a plein qui connaissent le mode d'emploi du Créateur. Il y en a plein dans notre société qui ont entendu parler de Dieu, mais il y en a combien qui essayent de se conformer au mode d'emploi du Créateur ? Si tu veux que Jésus comble le vide qu'il y a dans ton cœur, fais-le entrer dans ton existence et lis sa parole. Lis sa parole. Il a beaucoup de choses à te dire, beaucoup. Il veut renouveler ta vie de fond en comble. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen.